France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Une encyclopédie, même très épaisse, ne suffirait sans doute pas à recenser tous les syncrétismes religieux pratiqués en Amérique latine. Santeria à Cuba, Candomblé au Brésil et tant d'autres exemples d'un bout à l'autre du sous-continent. À l'origine, ce foisonnement spirituel et culturel n'a rien de joyeux ni de folklorique. C'est le résultat des immenses brassages de populations qui ont façonné cette région, le plus souvent dans des contextes de violence inouïe, de la destruction des grands empires pendant la conquête à la traite négrière qui fut ensuite organisée par les colonisateurs européens. Il n'y a donc rien d'anormal à ce que cette histoire mouvementée ait laissé des traces dans ces syncrétismes qui deviennent chacun à leur manière des témoins, des manifestations, de l'histoire et des événements vécus par leurs adeptes. Le cas de l'une de ces religions hybrides est particulièrement éloquent. Il s'agit de l'Umbanda, qui est tout à la fois un art de consulter les esprits des morts, une technique pour faire en sorte que ces morts influencent les vivants, et aussi un art de guérir, moyennant la pratique de la transe collective. Par son nom et par ses principes, ce syncrétisme s'inscrit dans la filiation des religions issues des cultures africaines, mais sa pratique concrète est bien typique de l'Amérique latine. L'Umbanda est d'abord pratiquée au Brésil, avant de s'étendre aux grandes métropoles de la région, jusqu'en Argentine et en Uruguay. L'Uruguay, c'est précisément le terrain qu'a pratiqué Mireille Batudossi, qui s'entretient avec Michel Cazenave dans cette émission, une matinée des autres, diffusée pour la première fois en avril 1980. Ce dialogue se révèle particulièrement didactique, revenant longuement sur les origines africaines des cultes syncrétiques de l'Amérique latine contemporaine, et en s'attachant surtout à décrire, tant que cela est possible, la dimension cathartique au cœur de ce culte de l'Umbanda. Quand les esprits des morts communiquent avec les vivants, c'est la santé psychique de l'individu et du groupe qui se joue simultanément. Embarquement immédiat donc pour l'Uruguay et pour l'Amérique latine, avec cette matinée des autres, l'Umbanda, une religion des esprits dans une société moderne.
La lumière divine a reflété dans toute sa splendeur. Elle vient du royaume de Chala, où il y a amour et paix. Ce qu'il a reflété sur la terre, ce qu'il a reflété sur l'air, ce qui vient d'Aruanda pour tout illuminer. L'Umbanda est amour et paix, un monde de lumière. Elle est force qui nous donne la vie, la grandeur qui nous conduit. En avant, fils de la foi, il n'y a pas une autre égale à notre loi. Apportez au monde entier le drapeau de Chala.
La matinée des autres. Par Madame Batudossi et Michel Cazenave. L'Umbanda, une religion des esprits dans une société moderne.
L'Amérique du Sud est d'une certaine manière un continent assez étrange.
surtout d'ailleurs l'Amérique du Sud orientale, si l'on peut dire, dans la mesure où il s'y est effectué un grand brassage de population et par là même un grand brassage de territoire de l'imaginaire humain et un grand brassage religieux. Si l'on pense particulièrement au Brésil et éventuellement aux pays qui l'entourent, nous avons là les Portugais, nous avons un certain nombre d'ethnies européennes qui sont venues, et puis nous avons un gros contingent de Noirs qui ont été amenés au moment de l'esclavage, et bien sûr le fond primitif indien. Et tout cela a donné des syncrétismes qui sont assez fascinants, je dirais presque, pour un occidental. Et dans ces religions ou dans ces systèmes religieux, pour être plus vastes, qui ont ainsi fleuri dans ces pays, il y en a un qui peut retenir plus particulièrement notre attention, puisqu'on en entend assez souvent parler, mais généralement sans trop bien savoir de quoi il s'agit, c'est celui de l'Ubanda. Alors, je crois que vous avez résidé longtemps, non pas exactement au Brésil, mais en Uruguay, où cette religion existe aussi, tout en faisant d'ailleurs parfois, je crois, des allers-retours avec le Brésil, ce qui vous a permis d'avoir une vue assez générale et assez synthétique de la chose. Et on a envie de dire, mais au fond, qu'est-ce exactement que cette Ubanda ? Est-ce que c'est une religion noire telle qu'on nous la présente ? Ou est-ce que c'est un syncrétisme réel avec, disons, un fond noir, et puis un certain nombre d'autres éléments halogènes qui s'y seraient ajoutés.
Contrairement à l'habitude, je ne sais pas jusqu'à quel point l'étymologie va nous aider. Néanmoins, on peut dire que le mot Umbanda, qui est un mot d'origine bantou, désignait initialement le chef de Macumba Carioca, ou le chef d'une nation, ou encore l'esprit régent, l'entité spirituelle régent d'une nation. C'est ce que l'on sait, si l'on suit en tout cas en cela Arthur Ramos. De la même façon, d'autres ont soutenu que le mot d'Umbanda était dérivé par déformation phonétique de mots tels que Kimbanda, Mbanda ou tout simplement Banda, qui de la même façon désignent des rôles masculins, des sorciers. L'Mbanda, le Kimbanda, c'est un sorcier bantou, là encore. Et à chaque fois, on a affaire à la désignation de rôle. Il ne s'agit pas du tout encore de culte, à proprement parler. Bien, en fait, je crois que c'est José Ribeiro qui a le mieux défini ce qu'est à l'heure actuelle, en tout cas pour l'Uruguay, sur lequel je vais essentiellement m'appuyer, l'Umbanda. Il s'agirait cette fois d'une voix angola. Et l'Umbanda aurait, en 1894, selon Ribeiro, les significations suivantes. On a affaire ici à une signification stratigraphiée. L'Umbanda désignerait d'abord l'art de consulter les esprits des morts. Ensuite, l'art de pousser les esprits des morts à influencer les vivants. Enfin, ou plus exactement en troisième lieu, ça désigne le pouvoir des esprits de guérir et donc du guérisseur de guérir les malades en permettant aux esprits de pénétrer en lui au moment de la transe. Et en fait, en quatrième lieu, on voit que l'Umbanda désigne l'ensemble des fétiches qui servent de moyens de contact entre le monde spirituel et les sacerdotes.
Oui, mais alors vous voyez, de la manière dont vous nous présentez la chose, pour l'instant, on a l'impression de faire une sorte d'inventaire de méthodes, si l'on peut dire. Mais il est bien évident que ces méthodes renvoient à un fond religieux qui les explique, qui les sous-tende. Alors, quel est en quelque sorte le panorama dans lequel se meut l'adepte de l'Ubanda et à quoi est-ce qu'il croit très précisément ?
Bien. D'abord, l'apparition de l'Umbanda dans les territoires brésiliens, uruguayens et argentins sont liées évidemment à la présence des Noirs, et en particulier des nations bantoues, des nations Fon, GG, et des nations Yoruba, dites Nago. Nago étant un terme péjoratif par lequel les GG désignaient à leurs voisins Yoruba. De la même façon, et c'est important pour l'Uruguay, la présence des Mozambiques, qui, comme on le sait, constituait sûrement parmi les nations esclaves la plus religieuse. Or, des quartiers entiers de Montevideo, des sortes de ghettos, comme c'est le cas du Cordon, qui est un quartier limitrophe, si on peut dire, avant la banlieue, eh bien, tous ces quartiers étaient essentiellement peuplés par des Noirs. Alors, jusqu'en 1807, ces Noirs jouissaient d'une relative liberté d'expression en matière de culte par le biais du folklore et par le biais des processions catholiques. Ils avaient des fêtes catholiques dont ils profitaient finalement pour donner libre cours à des manifestations religieuses propres. Ça, c'est une chose. En 1807, toutes ces manifestations, même surveillées, si on peut dire, par un censeur blanc, sont interdites pour des raisons d'ordre politique. Donc à ce moment-là, on peut dire que l'aspect religieux va gagner en intensité à mesure qu'il va devenir occulte. En Uruguay, elle s'est réintroduite par la frontière brésilienne, par la zone de la Colonia Livramento, etc., aux alentours des années 1942. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très récent. Néanmoins, on sait que au Brésil, l'Umbanda, comme religion et presque comme religion officielle, a été consacrée par un certain nombre de congrès nationaux aux alentours des années 33. Et 37, 1933 et 1937. Donc, ce sont les grands frères des Brésiliens qui sont à l'origine de ce redéveloppement, si on peut dire, des rites. Alors, vous m'interrogez maintenant sur la théologie, si on peut dire. Eh bien, il faut en revenir à une définition générale qui a été proposée là encore par Arthur Ramos. En termes de syncrétisme, c'est un syncrétisme nègre. Que recouvre le terme de syncrétisme nègre? Disons, si vous voulez, que c'est le résultat d'un mélange plus ou moins réussi entre des apports Gégé, des apports Nago, des apports catholiques, mais ce catholicisme très particulier, très superstitieux, propre aux Portugais en particulier, et en second lieu peut-être aussi au catholicisme espagnol, où on le sait, la géolâtrie est beaucoup plus développée que dans les autres catholicismes européens. Et puis, il faut y ajouter évidemment ce qu'on appelle le curandérisme, c'est-à-dire toute la science du guérisseur traditionnel, qui fait partie du folklore des zones du Rio de la Plata, une science très particulière des plantes, héritée cette fois des Indiens. On sait qu'en Uruguay, à l'heure actuelle, il n'y a plus d'Indiens, mais il reste quand même un très grand nombre de métis. Les charrúas, qui constituent l'entité indienne dont les métis ont hérité, étaient des grands connaisseurs de ces plantes. Alors tout ça s'est mêlé d'une façon plus ou moins heureuse.
Alors que le mysticisme chrétien ou musulman consiste en une longue ascension de l'âme vers Dieu jusqu'à ce qu'elle se perde en lui, l'autre mysticisme consiste à faire descendre Dieu ou l'esprit par des rites appropriés pour qu'il prenne possession durant un moment de l'âme de son fidèle. Le plus haut degré se situe dans la transe. Or, ces phénomènes de transe se rencontrent dans presque toutes les régions d'Afrique, non seulement sur la côte de Guinée, mais aussi chez les Bantous, les Abyssiniens et à Madagascar. Chose curieuse, ils augmentent d'intensité quand les populations indigènes se trouvent en contact avec d'autres peuples, avec des cultures différentes, comme si les divinités, craignant d'être expulsées des cœurs, se manifestait avec une véhémence plus acerbe.
distinguer en gros trois courants umbandistes. Il y a d'une part les plus proches de la mentalité européenne, ce sont les kardecistes, les grands héritiers du spiritisme d'Alan Kardec. Pour fixer un peu les idées, il est important de rappeler que le livre des esprits d'Alan Kardec, qui a été publié, si je ne me trompe, en 1857, apparaît tout de suite dans les pays américains, et en particulier au Brésil, qui est le premier pays spirit du monde, et se diffuse très très vite dans ces pays où les religions africaines viennent justement d'être refoulées. Disons, si vous voulez, que c'est le spiritisme qui prend la relève et qui va permettre aux Noirs de se manifester encore d'une façon assez fidèle à eux-mêmes à travers le spiritisme. Ça, c'est important. Le livre des médiums apparaît en 1867 et par conséquent, toute cette période va être couverte par les apports du spiritisme. Alors, le premier courant, l'Umbanda blanche, est constitué par l'umbandisme kardéciste. Il n'y a pas d'orchestre dans ces rites, il n'y a pas d'orchestre, on chante a cappella, il n'y a pas pratiquement de vêtements rituels particuliers, on porte une blouse blanche, aux pieds on porte des sandales de toile, des sandales de coton, des tennis en général, et puis c'est tout. Selon les différentes fêtes, il n'y a pas de modification de vêtements rituels, ça c'est important. Après, on rencontre l'Umbanda Caboclo. C'est un héritage du candomblé des caboclos brésiliens. Le caboclo, c'est un métis de blanc et d'indien, ou de noir et d'indien, ou des trois à la fois. Le caboclo, c'est le demi-dieu, c'est le surhomme. C'est l'Indien, justement, qui connaît les herbes, qui sait dominer les animaux par sa force physique. Donc, c'est l'entité que l'on appellera quand on aura besoin d'un surcroît de force physique ou de science au niveau de la nature. Voilà. Et puis, alors, vient apparaître quelque chose qui est déjà à cheval sur les rites proprement africains, qu'on désignera par le nom de Batuque. Batuque, c'est le terme sous lequel on désigne le candomblé dans le Rio Grande do Sul. C'est-à-dire que déjà, on a affaire à un culte des orishas.
Salvez aux orishas d'Umbanda. Salvez au grand Pâle, pouvoir suprême et créateur de l'univers, essence vive d'amour, de vérité et de justice. Salvez au Chala, exemple vivant d'amour pour l'humanité, pouvoir de sacrifice sublime des hommes pour les autres hommes. Salvez Yemanja, pouvoir des eaux. Salvez Ogum, pouvoir du bien contre le mal. Salvez Shango, pouvoir de justice. Salvez peuple d'Orient, pouvoir de sagesse. Salvez Oshossi, pouvoir des forêts. Salvez peuple de Congo, pouvoir d'amour, leçon de tendresse et de patience. Salvez aux sept forces astrales, aux sept lignes d'Umbanda. Salvez à toutes les forces. Salvez au minéral, au végétal, à l'animal. Salvez à l'homme. Salvez à la nature. Salvez à tous les caboclos et pretos velhos. Salvez à toutes les phalanges. Salvez à nos guides et protecteurs. Salvez.
Thank you.
À travers ce que vous dites, on s'aperçoit à quel point le culte peut être extraordinairement syncrétiste, puisque d'une part, nous voyons un syncrétisme déjà entre différentes origines africaines, puisqu'entre les Bantous et les Yoruba, il y a quand même une assez grande différence, et puis un syncrétisme qui récupère, si on peut dire, d'une part le fond indien et d'autre part un certain nombre de fonds européens. Mais ce qui me semble frappant, c'est que l'on s'intéresse à cette origine européenne, à cette origine indienne ou à différentes origines noires, on rencontre toujours cette notion d'esprit. Pour les Noirs, c'est absolument évident. Déjà, ce que vous nous dites pour les Indiens, cela le laisse supposer. Et puis, le spiritisme d'Allan Kardec, évidemment, tout le monde sait de quoi il s'agit. Et donc, à travers ça, on a l'impression qu'on se meut tout le temps dans un territoire extrêmement défini, et qui est au fond celui que, dans sa grande distinction entre les quatre religions fondamentales de l'humanité, dont celles que nous connaissons ne seraient que des variations, Alain Danielou appelle l'animisme. Alors, est-ce que c'est bien dans ce territoire, effectivement, que nous sommes? Et d'une part, quelle est la place de ces esprits et quelle est leur place par rapport à la création, par rapport à la manière dont se déroule l'histoire du monde même et par rapport aux hommes?
Bien, justement, là s'introduit la très grande différence entre ce que j'ai appelé le Batouk, qui est un héritage beaucoup plus authentique de l'africanisme, et les lignes de l'Umbanda. Pourquoi? Parce que dans le Batouk, on ne vénère que les orishas, c'est-à-dire les esprits purs, ce qui correspond dans le spiritisme d'Allan Kardec justement aux purs esprits, c'est-à-dire des entités totalement spirituelles, complètement dépris de toute matérialité. Donc les orishas, c'est d'ailleurs une voie yoruba. Alors, entre parenthèses, j'insiste sur le fait que jamais en Uruguay, on ne rencontre de nom de dieu qui revêtent la forme bantou ou la forme Gégé. Jamais. Tous les noms des dieux, tous les noms des orishas sont des noms yoruba. Ce qui, encore une fois, permet de voir comment en Uruguay, comme partout ailleurs, en règle générale, et également au Brésil, c'est la religion des yoruba qui a peu à peu supplanté toutes les autres religions africaines, toutes les autres religions des nations qui ont continué. Alors, les orishas, d'une part, qu'on appelle encore les saints. Par contre, dans les différentes lignes de l'Umbanda, on reçoit toutes les catégories d'esprits telles que on les voit apparaître hiérarchisées dans le livre des esprits d'Allan Kardec. Pour rappeler un petit peu en quoi consiste cette échelle des esprits, on a d'abord les esprits imparfaits, qui sont les morts très épris de matérialité, qui n'ont pas encore tout à fait consenti à abandonner leur corps. Ce sont des esprits aveugles qui, au lieu de rechercher la lumière, luttent désespérément pour retourner dans un corps. Ils ont tous les vices qui ont été les leurs de leur vivant. Ils sont égoïstes, ils sont jaloux, J'insiste sur l'égoïsme parce que pour l'umbandiste, c'est le défaut humain crucial, majeur, contre lequel essentiellement il va lutter. Alors nous avons d'abord les esprits imparfaits, puis viennent les esprits supérieurs qui ont déjà un degré de connaissance, de sagesse et un degré d'amour supérieur. Ces esprits ont l'intuition profonde de l'existence de Dieu comme créateur, comme clé de l'harmonie universelle. Ils conçoivent Dieu en termes d'intelligence, de laquelle tout procède. Dieu est quelque chose de purement spirituel, bien entendu. Il n'a pas, à proprement parler, créé la matière. La matière, c'est presque un accident de rencontre avec les esprits imparfaits. C'est l'imperfection même, finalement, qui arrive à créer la matière. Mais en revanche, il y a un processus qui rend la spiritualisation de la matière possible. Alors on le verra, c'est justement l'un des buts de la religion umbandiste, de permettre à la matière de se respiritualiser. Donc, nous avons les esprits imparfaits, les esprits supérieurs et déjà des esprits qui sont très proches de la spiritualisation. Ce sera par exemple le cas d'Oshala, qui est une syncrétisation, si vous voulez, de Jésus-Christ. Et puis alors, au-delà d'Oshala, quelqu'un que l'on n'évoque jamais, c'est Olorum, justement, le Créateur Tout-Puissant. Dans le culte, à proprement parler, dans les rites, Le but, c'est de permettre à tous ces esprits, aussi bien les esprits imparfaits que les esprits saints, de descendre dans les êtres humains par le biais justement de la transe.
Oui, mais alors, donc, nous assistons là à une sorte de hiérarchie des esprits, donc, qui nous renvoie à tout un certain nombre de paysages connus, puisque, par exemple, lorsqu'on s'intéresse à la gnose, nous connaissons toute l'hiérarchie des anges, des archanges, des archontes, des éons, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment, d'une part, est conçue la création, c'est-à-dire, au fond, pourquoi est-ce que la matière existe. Vous m'avez dit, c'est presque un accident, mais comment cet accident s'est-il produit, et comment l'homme, donc, se définit-il par rapport, d'une part, à cette matière quasi-accidentelle, et d'autre part, par rapport à ces hiérarchies d'esprit qui nous amènent au Dieu suprême.
Bien, là encore, la cosmogonie est très complexe, et on peut dire que, malheureusement, il n'existe pas un accord parfait dans ce domaine. D'une façon générale, on peut voir que il n'y a pas de solution de continuité dans les différents ordres de la nature. Les esprits ont été créés très longtemps, avant la matière. Et il y a une espèce d'indépendance, si l'on peut dire, entre la matière et l'esprit. Mais sans discontinuité. Après viendrait, si vous voulez, l'être humain qui dispose d'un corps. Et dans le meilleur des cas, le corps, c'est une chance qui est donnée à l'esprit pour se parfaire. Parce que les esprits, tels qu'ils ont été créés par Dieu, sont aveugles, ils sont ignorants. Et les différentes incarnations ont pour but de leur permettre justement d'acquérir une expérience et un savoir qui leur permettront de progresser justement dans la hiérarchie des esprits. Ce qui est merveilleux, c'est de s'apercevoir que dans ces religions, le diable ou l'ange n'est pas créé une fois pour toutes. Il devient. Tout est soumis à un processus de perfectionnement continuel. Et justement, l'acte d'humilité qui consiste à prêter son corps à un esprit imparfait, c'est aussi un acte d'amour. C'est l'occasion qu'on lui donne de se réincarner l'espace de quelques minutes ou de quelques heures pour voir, pour apprendre, pour observer, pour devenir meilleur. Et le médium, puisque une fois initié, les êtres qui, à travers la transe, peuvent recevoir justement ces esprits, ont le devoir, comme l'on dit, d'élever, d'éduquer ces esprits imparfaits. Et ça implique une continuité totale entre la vie de l'être religieux et sa pratique religieuse. À chaque instant, il a le devoir de devenir meilleur, plus aimant, d'avoir un sens plus aigu de la solidarité qui existe non seulement entre les hommes, entre ces créatures qui disposent d'un esprit, mais aussi entre les hommes et les autres ordres de la création, comme par exemple les végétaux et les pierres. Il y a un amour de tout ce qui existe, la pierre, l'animal, le végétal, parce qu'il y a un sentiment profond de la continuité. Et l'être sait, il en a une intuition profonde, qu'il a à apprendre de tout, même du minéral.
Il existe fréquemment en Afrique une union étroite entre la mystique de la descente des saints et les rites d'initiation. C'est que l'individu ne naît pas complet. Il naît par fragments successifs, par étapes, de telle sorte qu'il ne meurt pas non plus en une seule fois quand il donne le dernier soupir. Il meurt aussi peu à peu. L'homme existe seulement comme homme quand il possède un certain nombre d'âmes, toute une stratification psychologique intérieure. Premièrement, l'âme de l'aïeul, après le nom sacré et secret, l'âme des forêts, et enfin l'orisha, qui vit en lui comme une sorte d'ange gardien qui le visiterait. C'est pour cela que l'initiation se complète souvent de la recherche passionnée de l'orisha, du visiteur lié à la vie de l'adulte. Les rites d'initiation n'existent plus en Amérique comme rites obligatoires. L'esclavage les a détruits, mais on peut dire avec exactitude que l'initiation du fils ou de la fille de saint constitue un vestige de ces rites anciens. Thank you.
Cantique à Oshala. Ô colombe blanche, petite colombe d'Oshala. Ô colombe blanche, petite colombe d'Oshala. Ô colombe blanche, petite colombe d'Oshala. Ô colombe blanche de tous les orichas.
L'homme a une place centrale, dans la mesure même où il est, d'une part, le lieu où les esprits peuvent s'incarner et donc prendre conscience d'eux-mêmes, et où en même temps il est comme une sorte de carrefour entre le monde des esprits et puis le monde existant, que ce soit le monde végétal ou le monde minéral, et qu'il y a donc une sorte de chaîne, de grande chaîne, qui se constitue ainsi, dont l'homme est le maillon central ou le pivot.
Bien sûr, on pourrait sûrement évoquer l'image nietzschéenne du pont ou tout simplement zoroastrienne du pont. L'homme est un lieu de passage.
Oui, mais alors l'homme, comment, d'une certaine manière, comment entre-t-il en communication, soit avec ses pierres, soit avec ses plantes qui l'entourent, c'est-à-dire comment rétablit-il cette harmonie de l'ordre humain avec l'ordre minéral et l'ordre végétal, et puis en même temps, alors, de l'autre côté, ou je ne sais pas si c'est vraiment de l'autre côté, mais disons dans une autre zone, comment devient-il ainsi le support de la manifestation et de l'incarnation de l'esprit?
Et je crois qu'à ce moment-là, il faut évoquer tout de suite le problème de l'initiation. Rien ne s'improvise parce que celui qui se sent attiré vers ce genre de manifestation religieuse, par toutes sortes de manifestations qui peuvent être de l'ordre du rêve ou de l'ordre du malaise physique, la maladie est souvent considérée comme une chance qui est donnée à l'individu de prendre conscience de quelque chose qui lui manque. Et la prise de conscience d'une lacune, c'est une chance qui peut justement être utilisée dans le sens d'un apprentissage à faire. Alors il y a les grands initiés, ceux qui directement reçoivent la communication de l'au-delà. Les esprits lui dictent, lui donnent le sens d'une certaine mission à accomplir et le contenu d'un certain savoir. Et le premier devoir de ce grand initié, c'est de le communiquer. Et il y a véritablement, non pas un prosélytisme au sens de chercher à tout prix des recrues, mais un prosélytisme authentique au sens, si vous voulez, de ne jamais manquer à cette mission fondamentale de communiquer quand on est en face ou quand on croit vraiment être en face de quelqu'un qui en est digne, de lui communiquer l'essentiel de sa révélation. Alors, l'initiation, c'est tout un processus relativement douloureux. Douloureux parce que ça implique beaucoup d'efforts moraux, beaucoup d'efforts spirituels, un très grand travail de l'individu sur lui-même. Il ne s'agit pas d'un apprentissage purement mental. Je dirais même que c'est le refus de l'apprentissage mental qui est exigé par l'initiation. En quoi elle consiste, cette initiation? Mais c'est assez fabuleux de s'apercevoir que, d'abord, tout de même, ça diffère. Dans le cadre du Batuque, on le verra, l'initiation est beaucoup plus complexe et beaucoup plus primitive. Elle va beaucoup plus dans le sens de ce que vous désignez initialement par le terme d'animisme. J'y reviendrai après. Mais d'une façon générale, dans le cadre de l'Umbanda, l'initié, c'est quelqu'un qui a été désigné par une espèce de malaise. Par exemple, il peut être pris de crises nerveuses, pas nécessairement la maladie sacrée, l'épilepsie. Ça peut être tout simplement une espèce de déséquilibre émotionnel profond, une espèce d'accès de sensibilisation au mal, à la douleur, qui presque toujours est la douleur d'autrui. Il y a des gens qui deviennent malades parce que la misère et la douleur physique d'autrui véritablement les déséquilibrent. C'est un signe qui va permettre à la maille, au paille, c'est-à-dire au chef de temple qu'on appelle terreiro, de reconnaître qui vaut la peine véritablement d'être éclairé, d'être acheminé, comme on dit.
Maintenant, une bénédiction que Dieu envoie à ses élus. Ne soyez pas affligés. Car lorsque vous souffrez, avant tout bénissez le Dieu Tout-Puissant qui, par la douleur, dans ce monde d'imperfection, où tout doit être transformé en source de progrès, vous a marqué pour la gloire du ciel. votre corps est une chance nouvelle qui vous est donnée pour voir, apprendre et vous perfectionner. Cette incarnation doit servir les plans de l'esprit. Soyez patient. Votre patience est une charité. Soyez aimant. Sans amour, il n'y a pas de vraie bonté. Et sans bonté, il n'y a pas de progrès pour l'esprit, qui, lorsqu'il cesse de s'approcher ou seulement de tendre vers son Père, s'en éloigne. Pratiquez la loi de charité enseignée par notre Païoshala. L'offrande de la main ne suffit pas. L'offrande des lèvres, prenez garde qu'elle ne soit pas mensonge. L'offrande des lèvres est douce au cœur quand elle est une promesse. Mais il y a plus noble encore. Sachez vraiment contribuer à alléger les peines et le fardeau de vos frères. Sachez pardonner. Pardonnons à ceux que Dieu a placés sur notre chemin pour qu'ils soient les instruments de notre souffrance et donc pour nous mettre à l'épreuve de la patience.
Alors, ça peut être aussi parmi les petits-enfants, notamment les petits-enfants qui assistent aux sessions publiques, hein, au rite des somnolences. Les enfants s'endorment et on part du principe que c'est l'esprit qui les emporte. Ils s'endorment, ces accès de somnolence. Ou alors la transe qui va faire irruption dans le corps d'un être qui, pour le moment, n'est encore que partie du public. Bien, à ce moment-là, il va faire l'objet d'une entrevue. On va lui demander quelles sont ses aspirations profondes, s'il y a vraiment quelque chose dont il est conscient quant à ce qui se passe en lui comme phénomène spirituel, ou si vraiment il vit d'une façon plus ou moins intense une quête spirituelle ou morale. Après, la maille, la responsable de l'initiation, va tirer les boussios. Les boussios sont des petits coquillages, des kaoris, qui toujours en Afrique ont joué un rôle important dans les phénomènes de divination. Eh bien, on jette les kaoris qui vont du nombre de 7 au nombre de 18 dans les grands jeux, en particulier au Brésil, les grands jeux de Candomblé. Et selon la manière dont retombent ces kaoris, on peut lire différents éléments du passé et du devenir possible. Il n'y a pas de déterminisme. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont des religions d'ouverture, des religions d'espoir. Il n'y a pas de déterminisme, mais ce qui est possible, ce qui est prévisible pour l'individu. Et en particulier, on tire les kaoris pour savoir ce que l'individu a dans la tête. C'est l'expression que l'on utilise. Avoir quelque chose dans la tête, c'est-à-dire quelle est l'entité spirituelle qui va avoir le plus de chances de descendre de Bahar Primero, de descendre d'abord en lui. Par conséquent, il va avoir un saint de tête, une entité spirituelle de tête, comme ensuite il en aura un d'épaule. L'épaule, partie du corps sur lequel repose le poids, sa capacité de résistance face à la misère, à la douleur, à la déception. Ce qu'il va avoir dans le corps, ce qu'il va avoir dans les jambes, son dynamisme, la mission qu'il va pouvoir accomplir en tant que messager de telle entité ou de telle autre. Alors, selon les différentes lignes de l'Umbanda, il peut s'agir d'esprits inférieurs. On parlera dans ce cas d'échoues. Les échoues, ce sont les démons, ce sont les mauvais génies, ce sont ceux qui presque toujours nous écartent justement de ce désir de perfection et nous masquent cette intuition d'une présence véritablement harmonieuse et intelligente dans l'univers. Et puis ensuite viendront les esprits intermédiaires que l'on peut avoir dans les épaules justement. Le caboclo, très souvent, se localise dans les épaules, c'est la force de résistance de l'individu, avec laquelle il faut jouer justement pour atteindre des sphères supérieures, etc. C'est-à-dire que la physionomie, la manière dont se présente le corps de l'individu va également aider la maille à savoir ce qu'il peut recevoir. Parce qu'il est très important, avant de préparer un individu, de savoir quelles sont ses affinités spirituelles.
Y que tengan la mano de la familia.
Quand la fille de saint berce en dansant le bâton couvert de coquillages, elle imite Nania, qui prend l'enfant abandonné par Omoulou pour l'élever, prendre soin de lui au chant de ses berceuses. Quand le fils de Yaya danse en frottant avec une de ses mains les deux côtés de sa tête, puis sa nuque, et ensuite les épaules, en tenant l'autre bien ouverte, c'est parce que la déesse a eu mal à la tête et a pris dans la bassine les remèdes du médecin. Quand les filles d'Oxumaré imitent le rampement du serpent sur le sol, c'est parce que l'arc-en-ciel dans la mythologie dahoméenne est lié au serpent marin. Le Alura, qui est le séjour de Xango, est une démonstration de force de la part du dieu. Et dans la danse des jumeaux, les Ibéries creusaient la terre à la recherche de l'eau. Leur recherche angoissée continue jusqu'à ce qu'ils aient découvert, enfin, la fontaine souterraine. On remplit alors les vases pour offrir la liqueur précieuse au tambour sonore en un grand geste d'amour. Errer, 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 errer des mimes, errer des nains.
Ensuite, l'individu va faire l'objet d'un lavage de tête, un lavado de cabeza. Dans les lignes d'Umbanda blanche, ce lavage de tête va être fait avec des plantes aromatiques et curatives que l'on va faire macérer dans de l'eau. On va déposer toutes ces plantes dans ce que l'on appelle une cuartinha, c'est-à-dire un récipient de terre cuite. Et puis, cette eau va être présentée au rayonnement des astres pendant la nuit, et cela 3 jours de suite. Quand cette eau va être prête, on va s'en servir pour purifier l'individu et en particulier sa tête, qui va être le premier siège, le premier réceptacle de la première entité qui va descendre en lui, que l'on va appeler sur lui. Alors c'est un petit peu l'équivalent d'un baptême, si vous voulez, parce que c'est la première fois que l'individu va recevoir, que la personne va recevoir son nom de religion. Presque toujours, il portera le nom de l'entité de tête. C'est pourquoi on pourra parler de Lourdes de Llansa ou de Teresa das Matas, parce que son entité de tête pourra être la cabocla, l'indienne Maria das Matas, qui est une guérisseuse. Voilà. Et puis, après ce premier baptême, eh bien, il faudra, ce lavado de cabeza, attention, il faudrait tout de même mentionner qu'on lave aussi la tête des individus qui ont besoin d'être protégés contre un danger que l'on suppose imminent, contre l'envie, la jalousie, ou contre toutes sortes de perversions dont on sent qu'elle peut faire l'objet très facilement. À ce moment-là, après avoir purifié sa tête, grâce à cette eau, on va lui attacher autour de la tête une espèce de paño de cabeza, un petit foulard, qui va devenir presque un talisman. Ce foulard devra être tout à fait occulté. Il faut que personne ne puisse s'en saisir jamais, parce que ce serait acquérir un pouvoir dangereux sur la personne qui l'a porté au moment de la purification. De la même façon, ce talisman, ce paño de cabeza, peut servir de remède dans les cas de malaise et en particulier dans les cas de dolencias, ce que l'on appelle dans le spiritisme les dolences, quand l'esprit est dérangé, est perturbé. Donc en particulier dans tous les cas de troubles mentaux, plus ou moins légers ou plus ou moins profonds. Il faut ensuite qu'après ce lavage de tête, en fait, l'individu fasse ses preuves, qu'il ait au sein du terreiro, au sein du temple, par conséquent, une attitude irréprochable. Après quoi, la deuxième étape sera el retiro, ce qu'on pourra appeler, si vous voulez, le retrait, la récollection. L'individu, pendant un certain temps, va être contraint à une solitude totale. Pendant 7 jours, il va dormir à même le sol, sans jamais changer de vêtements, son vêtement rituel. Il va dormir à même le sol, au pied de l'autel. Dans la journée, il pourra recevoir la visite de lama qui lui apportera des aliments. Ces aliments ne seront pas n'importe quel aliment, mais ceux qui correspondent à l'entité qu'il a de tête. Chacun des orishas majeurs, chacun des caboclos, chacune des entités a ses mets et ses boissons privilégiés, qui ne peuvent être attribués qu'à lui seul. Supposons que la jeune fille qui se soumet à l'initiation est Mayoshum de tête. Oshum, c'est, si vous voulez, la Vierge miraculeuse. Pour les Africains, ce sera la déesse de l'eau douce. C'est la déesse d'un amour très tendre, opposé à Yemanja, qui est véritablement l'équivalent d'Aphrodite, de Vénus, qui est la déesse de la mer. Eh bien, si elle a Oshum de tête, elle mangera du maïs jaune, cuit dans du lait avec de la cannelle. On appelle ça la masamora, la kanjika. Et puis, elle boira de l'eau pure. S'il s'agit de soit d'une femme, soit d'un jeune garçon qui reçoit Ogum. Ogum, c'est San Jorge, c'est-à-dire Saint-Georges. Eh bien, il devra être vêtu aux couleurs de son sein, c'est-à-dire de vert, de blanc et de rouge. Il boira de la bière blonde et il mangera de la viande cuite sur le grill, etc. En fait, il y a une véritable identification recherchée entre l'entité de tête et l'initié. Maintenant, il faut dire que l'épreuve majeure, c'est véritablement ce silence, cette récollection, cet abandon, cette rencontre avec soi-même qui prend très rapidement un caractère hallucinatoire. Et pendant ces 7 jours, on apprend la technique de la transe.
Ansa, wasabi, sempre a força, a sempre de vida será, que tem esta sacada iluminando e dando a força, a clareza e a firmeza, que sempre esta sacada pode estar sempre dando a versão, sempre por pior, e que a tua mata esteja sempre com a resina, fazendo sempre o coletivo e sempre esteja sempre.
Est-ce que d'une manière ou d'une autre, on ne pourrait pas raccorder cela à des rituels extrêmement anciens que nous connaissons, et je pense particulièrement aux rituels chamaniques, bien sûr, tels qu'on peut les connaître en Sibérie, ou tels que certainement on les a connus dans la préhistoire de notre humanité. Dans la mesure où j'ai été très frappé par ce que vous avez dit sur la manière de choisir, si l'on peut dire, le futur initié, qui est généralement un malaise nerveux ou une maladie, et on sait très bien que les chamans étaient justement distingués par les dieux du fait même qu'ils étaient malades et généralement atteints plus ou moins gravement, mais atteint d'une manière mentale, où ensuite nous avions cette retraite chamanique, et puis en même temps cette sorte de perte d'âme et de technique de la transe qui faisait que le chaman devait perdre son âme propre pour faire place nette, pour en quelque sorte donner le lieu de la manifestation à l'esprit qui allait être le sien. Donc est-ce que nous ne nous trouvons pas là, en fait, devant l'une des résurgences, de l'un des fonds les plus lointains et les plus archaïques? Et bien sûr, lorsque je prononce archaïque, ce n'est pas du tout au sens péjoratif, simplement au sens objectif.
Ça va même assez bien dans le sens d'une thèse que j'ai soutenue sur le chamanisme, à savoir que, contrairement à ce que défend Mircea Eliade, à savoir que le chamanisme, c'est une technique d'extase, je pense au contraire que le chamanisme, c'est une technique de manipulation de l'âme, de ses âmes propres et des âmes d'autrui, dans le cadre justement d'un pluralisme de l'âme qui est, je crois, un phénomène fondamental sur lequel on n'insiste jamais assez. Et alors, dans le cadre de l'Umbanda, se donne un phénomène analogue. L'individu admet qu'il recèle une pluralité de personnalités et que chacune ont le droit à la parole, ont le droit à l'expression. Il s'agit un petit peu de fuir le concept d'identité, le concept de personne, difficilement unifié par le christianisme, et d'une certaine façon de faire éclater ce concept. Alors, la technique de la transe, justement, est permissive en ce sens-là. Mais il y a un autre point commun, vous avez raison de le souligner, c'est le caractère charismatique du chaman. Il est évident que le grand médium, le grand initié qui passe rapidement à être le chef de terreiro, le paille ou la maille, eh bien, a un caractère charismatique du même ordre. C'est une personne extrêmement prestigieuse. Et il faut dire que dans le domaine de l'Umbanda, l'importance de la hiérarchie à l'intérieur du temple est capitale. Une hiérarchie qui a un caractère spirituel. On a droit à l'autorité de la pureté de vie que l'on mène et à la capacité de charité, d'entraide et de solidarité avec les autres qu'on est capable de démontrer.
Mais est-ce que d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas aussi, et je crois que le jeu des analogies n'est pas gratuit dans la mesure où il peut jeter une certaine lumière, essayer intuitivement de faire comprendre un certain nombre de choses, est-ce qu'on ne peut pas aussi renvoyer à une certaine conception de la chevalerie? Je pense aussi bien à la chevalerie médiévale qu'à la chevalerie japonaise, où d'une part il y a effectivement cette notion de hiérarchie extrêmement prononcée, et puis en même temps cette hiérarchie est appuyée sur la pureté de cœur et sur le degré d'avancement de son propre perfectionnement spirituel et donc en même temps de son degré d'avancement vers le Dieu suprême.
Oui, je crois qu'il n'y a aucun doute à cela. D'ailleurs, le médium ne participe pas à une session quand il est conscient d'avoir quelque chose à se reprocher. Il existe, dans le cadre de ces temples, en dehors des sessions publiques, bien entendu, des espèces de rites analogues à la confession publique. Mais d'une façon ou d'une autre, on ne peut recevoir d'esprit qu'à la condition d'être parfaitement pur, ou du moins d'avoir très sincèrement la conscience de cette pureté. Et la maille intervient constamment pour sanctionner, réprimander, dans le but de faciliter le perfectionnement de l'individu.
Oui, mais alors ce qui retient mon attention, c'est justement que plusieurs fois vous avez bien rappelé quel était le rôle de la maille et de montrer comme d'une certaine manière il était central. Ce qui veut bien dire que d'une certaine manière, l'homme ne peut pas accomplir son propre perfectionnement tout seul. Il ne s'agit pas d'un simple travail sur soi-même, mais il y a toujours cette notion de guide ou de maître ou... actuellement, on dirait peut-être de gourou, mais qui est que nous avons besoin effectivement de quelqu'un qui a déjà accompli le chemin et qui, d'une certaine manière, nous prenne par la main pour nous aider à l'accomplir à notre tour.
Oui, bien entendu. D'ailleurs, les chefs de terreiro sont des personnes qui reçoivent sept entités, une entité appartenant aux sept grandes lignes. Disons que, si vous voulez, le panthéon Umbanda est divisé en sept grands courants, qu'on appelle des lignes, chacune étant présidée par une entité majeure. Ça sera le cas de Yemanja, et on aura la lignée des Yemanja, on aura la lignée des Oshala, qui est Jésus-Christ, on aura la lignée des Ogum, qui est Saint-Georges, on aura la lignée des Oriente, qui est Saint-Jean-Baptiste, on aura, etc., enfin, sept lignes majeures, et ces sept lignes se subdivisent. Mais ce qui est important, c'est que, une fois achevé le développement spirituel, l'individu doit recevoir une entité appartenant à chacune de ces lignes. Ça ne veut pas dire forcément le chef de la ligne, mais une entité appartenant à une légion ou à une phalange de cette ligne. Donc, la maille ou le paille est toujours une personne extrêmement assistée puisqu'elle est capable de recevoir alternativement sept entités différentes. Au fond, tous les horizons de la sagesse, du savoir et de l'intelligence humaine sont supposés être recouverts par ces sept lignes. Et puis c'est sûr que l'assistance de la maille qui joue véritablement, comme son nom l'indique, le rôle d'une mère, ou dans le cas du paille, le rôle d'un père, est capitale. Ensuite, le terme de guide est d'autant plus important qu'on le voit constamment apparaître. Ces entités qui sont intégrées par l'individu dans son corps au moment de la transe sont appelées justement guillas. Ce sont des guides. Ces esprits jouent le rôle des guides.
Qui est de ronde, c'est Saint-Georges. Saint-Georges est celui qui est de ronde. Celui qui est de ronde est Saint-Georges. Saint-Georges est celui qui est de ronde. Celui qui est de ronde est Saint-Georges. Toute la nuit et tout le jour, celui qui est de ronde est Saint-Georges. Mon père, qui me dit qui il est, celui qui est de ronde, c'est Saint-Georges, veillant sur les fils de la foi.
On voit que les médiums, pendant les sessions ou pendant les moments de recueillement individuel, portent autour du cou des colliers que l'on appelle également des guillas, c'est-à-dire des guides. Ces colliers sont des inducteurs à la concentration. Ce sont, si vous voulez, des éléments symboliques qui jouent le même rôle qu'une croix ou une médaille que l'on porte autour du cou quand on a la foi et qui par conséquent remplit une fonction autre qu'ornementale. Eh bien, ces colliers, que l'on peut d'ailleurs porter en très grand nombre, ne sont pas autre chose justement que des appels. Alors, on voit encore ce terme de guillas apparaître avec les cantiques. Les cantiques sont véritablement des prières, mais des prières qui justement font le pont entre la matière et l'esprit, puisque c'est de la musique, et c'est le tambour qui appelle, qui invoque, qui conjure selon la nature des esprits auxquels il s'adresse. Un médium entre en transe à partir du moment où on tire sa prière, dans le cas du batouk, on dit tirar resas, des prières, ou pushar pontos, c'est-à-dire chanter, hein, lancer des cantiques, dans le cadre de l'umbanda. Alors, à partir du moment où la musique correspond, le corps du médium répond et se met à tourner, parce que pendant ces cérémonies, justement, il y a tout un processus qui consiste à passer de la salutation de la totalité des orishas et de la totalité des esprits qui sont présents sur le kongal. Le kongal, c'est le terme par lequel on désigne l'autel. L'autel est généralement fait de gradins sur lesquels sont en relation à la hiérarchie admise, disposer les représentations iconographiques, les statues des différents orishas. À ces statues, on accroche ordinairement les colliers, si vous voulez, qui seront passés par les médiums au moment où doit commencer la séance.
Le crépuscule me chassait, m'obligeait à reprendre le tram, plein de mendiants noirs, d'ouvriers songeurs, de soldats amoureux, de mulâtres ironiques, de malandrins affublés des chemises les plus incroyables, bleu ciel avec des galons dorés. Je retournais à l'hôtel, en attendant que le tam-tam de la fête m'appelle de nouveau dans ces lieux, cette fois dominé par la nuit, la musique et la folie divine. Naturellement, les sacrifices qui précèdent la fête varient selon les orishas à qui la cérémonie est dédiée, tout comme le nombre d'animaux morts varie suivant la nature de la fête, obligation personnelle ou cérémonie publique, et selon les ressources du terreiro. J'ai même l'impression que dans certains lieux de culte plus prolétaires, où les baraques tombent en ruine, les murs sont lézardés, et où les trous dans le toit laissent apparaître des morceaux de ciel étoilé, l'unique sacrifice est l'indispensable padier des échos. Et pour donner une idée de cette partie du culte, je décrirai rapidement celui de la maison de Hoksun Mare. Logan a offert une chèvre à la déesse de l'arc-en-ciel. La tête coupée de l'animal passe le jour dans le pégis de la maison et à la nuit tombante est emmenée en procession jusqu'au pégis spécial de Hoksun Mare. Le cortège sacré tourne autour du Terreiro comme la procession catholique autour de l'église. On entend d'abord au loin un chant d'adoration qui s'élève, à la fois pur et austère, et qui indique l'approche du défilé. On ne voit encore personne. Seul le cantique dont la musique va en augmentant dans l'ombre. Puis brusquement, à travers les maisons des orichas, surgissant du mystère des arbres enlacés, la procession avance, apparaît. En tête vient Logan avec son écharpe verte autour du corps. Ensuite, une fille d'un noir d'ébène, sculpturale et hiératique, porte sur la tête une large bassine en terre couverte d'un tissu blanc immaculé. J'admire sa danse, car elle danse avec son offrande pesante qu'elle maintient avec le bras levé, semblable à l'anse d'une amphore antique. Elle danse en avançant. Danse divine et difficile. Derrière elle, la mère danse également et chante, précédant la troupe des filles du Terreiro, toutes vêtues de blanc, avec des vêtements, des écharpes, des plastrons tout ornés de dentelles, de broderies et de joyaux. Comme des saintes sorties de leur niche, descendues de leur chapelle pour s'unir à la foule des hommes. Danse lente, languissante, adaptée à la douceur du crépuscule, à la tendresse des premières étoiles qui s'ouvrent comme des fleurs d'argent dans le ciel couchant. Musique monotone, répétant inlassablement les mêmes paroles, Boita Obota.
Alors, au début, il y a tout un processus de ce qu'on appelle défumatio, c'est-à-dire qu'on brûle de l'encens, on brûle des végétaux, des plantes aromatiques pour purifier. On offre aux échoues, c'est-à-dire aux esprits inférieurs, toutes sortes de cadeaux pour leur demander de bien garder les portes, de bien protéger le temple de tous les fluides néfastes qui pourraient s'en approcher pendant justement la réunion spirituelle. Et alors, ensuite, après les premiers chants, qui sont toujours des chants a cappella, qui sont des salutations, on salue à la fois la maille, d'une façon très humble, d'une façon aussi qui nous représente l'influence notable de l'islamisme sur ces courants. Parce qu'il ne faut pas oublier que parmi les Noirs qui ont peuplé le Rio de la Plata, il y a eu beaucoup de Manding, qui étaient, comme on le sait, des Noirs islamisés. Il y a eu aussi l'influence du mouvement Haoussa, qui a été réprimé au Brésil. Alors, on salue la maille, on salue les entités du Congal, et puis les tambours commencent à appeler les différentes entités. On commence souvent par les entités les plus puissantes, comme ce sera le cas de Xango. Xango étant le dieu de l'orage, de la tourmente. C'est le dieu de la force électrique, magnétique. Et puis se succède toute une série de cantiques dédiés à chacun. On peut dire qu'en règle générale, 5 cantiques sont dédiés à chaque entité. Et pendant ces 5 cantiques, le médium qui a 2 têtes, cette entité, rentre dans la rueda, c'est-à-dire se met à tourner. Et rarement, mais quelquefois, il se met à parler. Et puis ensuite, on interrompt le batucaje, c'est-à-dire le tambourinage, Et puis, c'est la session de caridad, la session de charité, où le public peut bénéficier des passes. Ce sont des passes magnétiques qui sont censées faire passer les fluides bénéfiques du front ou des épaules ou de la poitrine des médiums dans les malades. Il y a donc des impositions de mains, mais ce ne sont pas les personnes, des intégrants qui réalisent ces passes, sinon les entités incarnées.
À travers ce que vous nous décrivez là, on a l'impression que la transe est effectivement un phénomène central, à la fois dans le processus d'initiation.
C'est le but de la session, c'est le but de l'apprentissage. Au fond, lorsqu'on demande à être initié, on dit à la maille, fais de mon corps un réceptacle possible pour les entités, et fais-le tellement bon et tellement pur que les entités qui puissent y descendre soient de plus en plus pures et de plus en plus intégrante du monde supérieur, en fait. Le monde ne peut pas recevoir Oshala, mais si tout le monde peut commencer par recevoir la Kabok, la Shure, Mao, Hirashema, etc., eh bien, l'avenir, si vous voulez, du perfectionnement spirituel doit viser à justement pouvoir atteindre les entités supérieures. C'est la raison pour laquelle, quand on passe à recevoir les purs esprits, les orishas, le rituel d'initiation devient beaucoup plus difficile, beaucoup plus exigeant, ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. À ce moment-là, on se rapproche des rites bien connus pour le candomblé. Alors il y a quand même une différence, jamais on ne rase le crâne d'un initié dans l'Umbanda, ce qui est la règle dans le candomblé, et comme on le sait, plusieurs fois au cours du processus d'initiation. Bon, alors à ce moment-là, il est fréquent d'assister à cette progression qui est la suivante. On quitte l'umbandisme kardéciste pour passer dans l'umbanda croisé, et on passe de l'umbanda croisé au batuque. Parce que dans le batuque, qu'on appelle aussi linea nation, par référence à la tradition africaine plus pure, plus archaïque, à ce moment-là, on se prépare d'une façon toute différente. Généralement, c'est plus long. Ça peut être 7 semaines, comme ça peut être 7 mois, selon les congrégations, pourrait-on dire, qui sont plus ou moins exigeantes, plus ou moins fidèles, si vous voulez, à l'origine. Alors, en quoi consiste essentiellement cette initiation qui est extrêmement longue ? Un retrait, une récollection dans la plus complète solitude, une alimentation avec un processus d'identification à l'orisha, c'est évident, mais aussi des baptêmes de sang. On va procéder à des sacrifices sanglants sur la tête et les épaules de la personne qui se soumet à l'initiation. Il n'est pas question ensuite de laver ce sang. Il faut que le sang sèche et on suppose que les orishas viennent se nourrir de ce sang qui a coulé sur le corps de l'individu. S'il disparaît très vite, c'est bon signe. Les orishas sont favorables, sont venus très rapidement consommer le sang du sacrifice. Si au contraire, 2 jours après, on rencontre encore du sang coagulé par écailles et très nombreuses, alors, ça laisse présumer que peut-être les orishas ne veulent pas de l'initié. On va lui demander de demeurer plus longtemps encore parmi les assistants et les fidèles, de travailler à son perfectionnement moral et puis de tenter sa chance, si je puis dire, un petit peu plus tard. En fait, on va le retenir dans le plan du profane plus longtemps, mais en vue de lui permettre un accès ultérieur. On ne renonce jamais, en fait. Et puis, les différents grades dans le batuque, ce qui n'existe pas dans l'umbanda courante, une fois qu'on est reçu médium, eh bien, le processus de perfectionnement est individuel, toujours sous la responsabilité de la maille, mais enfin, il n'y a pas véritablement tous ces degrés. Alors, dans le batuque, on reçoit d'abord ce que l'on appelle maodefaka, c'est-à-dire qu'on va pouvoir soi-même pratiquer des sacrifices. Alors la première faka, la première hache ou couteau, si vous voulez, va permettre de sacrifier des animaux de 2 pieds. C'est la raison pour laquelle on dira recevoir maodefaka de 2 pieds, de 2 pieds. Ensuite, de 4 pieds, il sacrifiera à ce moment-là des béliers, des chèvres, des moutons. chaque entité ayant encore une fois son animal particulier. Shango aura son bélier noir. Les chèvres blanches seront sacrifiées à Oshun, etc. Eh bien, à ce moment-là, quand il a la faca de quatre pieds, l'individu aspire à recevoir le don de la parole, la fala. Il est bien évident qu'il est soumis pendant tout ce temps à un apprentissage très, très, très sévère, très exigeant. Pas dans le sens de l'ascétisme. Les umbandistes, d'une façon générale, sont très hostiles à l'ascétisme, de la même façon qu'au célibat. Mais très sévère dans le sens de la pénétration, de la continuité intense qui existe entre les différents règnes de la nature. On lui apprend à connaître les pierres, on lui apprend à s'identifier avec les différents minéraux et à les connaître. C'est à la fois un savoir empirique et une connaissance animique, se laisser pénétrer par ce qui peut émaner du minéral. La même chose avec les végétaux, d'une façon beaucoup plus sévère encore, parce qu'il existe une sensibilité du végétal qu'il faut devenir capable de capter. Il faut devenir capable de capter les messages des plantes. C'est souvent à l'aspect d'une plante qui vous parle que l'on peut savoir si celui qui vous fait face est un être qui dégage des fluides bénéfiques, stimulants, dynamiques, une personne bonne, dirait-on, ou si au contraire on va avoir affaire à quelqu'un pour lequel on devra faire quelque chose. Parce que le propre de l'Umbanda, c'est de considérer tout ce qui est neutre comme néfaste. Parmi les esprits impurs, justement, on rencontre les esprits neutres, ceux qui, sans faire le mal, ne font pas non plus le bien. Ce qui est déjà finalement un crime, parce que là où tu connais ton devoir, tu as d'abord le devoir de le faire. Et puis ensuite, les animaux, il faut arriver à une espèce de solidarisation profonde avec l'animal. C'est la raison pour laquelle tous les animaux destinés au sacrifice vont être, comme c'est le cas, on le sait, dans tout le cercle subpolaire arctique, soumis à une éducation, pourrait-on dire. On les domestique pas, on les apprend à ne pas être cruels. Et puis on les traite très bien, comme si c'était de petits enfants, entourés de chaleur maternelle. On les nourrit bien, on les traite avec beaucoup d'affection pour ensuite les sacrifier et voir donc en eux des messagers. L'animal du sacrifice est un messager. Ça doit être quelque chose qui a reçu beaucoup d'amour pour pouvoir justement en transférer dans l'au-delà beaucoup. Ça va être un petit peu le porte-parole des hommes, le messager de leurs prières, et il doit se présenter comme un pur message, c'est-à-dire une énergie tout à fait déprise de son support matériel. On doit, par l'éducation, avoir réussi à spiritualiser l'animal. C'est la raison pour laquelle les umbandistes vous diront très souvent, d'une façon amusante, que les êtres qui ont des chiens hargneux ou cruels ne sont pas des êtres bons. Parce que si le maître est bon, l'animal doit le devenir. Et c'est un petit peu ce qu'il se propose aussi de faire avec les démons ou les esprits obscurs. C'est le cas par exemple des suicidés. Le suicide est un drame parce que il prolonge le trouble spirit, c'est-à-dire cette difficulté, cette douleur qu'éprouve l'âme à se déprendre du corps au moment de la mort. Alors véritablement, l'esprit va continuer à errer, va continuer à lutter pour réintégrer son corps. Il va gêner, perturber la vie des vivants. Et puis, de toute façon, il ne continuera pas son chemin, il va stagner. Alors il faut l'aider. Et c'est la même chose, on peut élever avec beaucoup d'amour un esprit impur pour le pousser un peu à reprendre le chemin et à progresser à son tour vers plus de lumière. Les esprits se nourrissent de lumière, se nourrissent de choses douces. C'est pourquoi dans les rituels, on utilise beaucoup la flamme des chandelles, qui d'ailleurs a un pouvoir magnétique très important et joue dans les phénomènes d'auto-hypnotisation un très grand rôle. Et puis le miel, et puis l'eau. l'eau, le miel, les plantes aromatiques, les parfums et les miroirs. Les miroirs sont considérés, beaucoup de langues indiennes d'ailleurs les désignent de cette façon, comme les pièges de l'âme. Alors, il faut offrir un miroir aux esprits purs. Mais par contre, il faut cacher les miroirs chaque fois qu'on évoque les esprits impurs.
Comme serf de Dieu et créature de Dieu, je délie de l'esprit malin tout ce qui a été lié. Comme serviteur exclusif du bien, je demande que soient coupés les nœuds auxquels ont été asservies les créatures de Dieu. Au nom de Pai Cipriano et de la part du Dieu trois fois saint, par la puissance des esprits supérieurs, Adonai, Elohim, Jéhovah et Mitraton, moi, j'absous ton corps, afin qu'il soit libéré de tout travail de sorcellerie, enchantement et sortilège, que ce soit par la force des hommes ou celle de substances maléfiques. Dieu soit loué et glorifié, et daigne dissiper tous les travaux de sorcellerie, enchantement et sortilège, qui ont pu introduire la souffrance et le mal dans ton corps et dans ton esprit. Dieu grand et tout-puissant, glorifié soit votre nom, et que par votre intercession soient contraintes de se retirer toutes les forces du mal qu'on y a introduites et qui perturbent son corps et son esprit. Je vous conjure et je vous ordonne, dans l'esprit du Père de l'univers et par les pouvoirs de tous ses orishas, de vous retirer de ce corps et de le délivrer de la mort et de la haine. L'officiant trace alors trois croix, l'une sur la tête, à l'endroit de la fontanelle, l'autre sur le ventre, à l'endroit du nombril, la troisième sur le gros orteil du pied gauche. Que soient absoutes et purifiées par cette eau les forces domestiquées et soumises qui ont été les instruments du mal et de la souffrance, et qu'elles soient restituées à leur ingénuité première. C'est la malveillance de nos frères qui les utilise, et non les puissances de la nature que nous devons combattre. Que son esprit, qu'en votre nom je libère, reste libre de tout esprit de vengeance. Qu'il ne se souvienne du mal que pour le combattre, et qu'il sache à jamais que seul délivre l'amour dans la fraternité.
Mais là, on a l'impression qu'il y a une sorte de mouvement presque universel de récollection et de rédemption de l'univers. Dans la mesure où nous parlons de la transe, mais enfin la transe a été maintenant bien étudiée d'un point de vue neurophysiologique, on sait très bien que cela consiste en une séparation, si on peut dire, des seuils de vigilance et de conscience, par là même d'une modification du système nerveux, et par là d'une sorte d'unité qui se crée entre, d'une part, le plan intellectuel et spirituel, et effectivement son support matériel. Vous parliez tout à l'heure, au début du processus d'initiation, de ce jet de pierre, qui d'une manière ou d'une autre est un art oraculaire ou un art divinatoire, qui peut être assez facilement qui peut être rapproché par exemple d'un autre art chinois, celui-là, comme celui des Yiking, oui. Et dont il est évident que l'idée qui est dessous est quand même une certaine unité à la fois physique et psychique de l'ensemble de l'univers, et où donc on a l'impression, et surtout à travers ce dialogue avec les pierres, ce dialogue avec les plantes, ce dialogue avec les animaux dont vous parlez, que si l'on arrive jusqu'au bout du processus, on doit assister à une sorte de spiritualisation complète de l'ensemble du monde, de rédemption donc de l'ensemble du monde existant, du monde matériel, et peut-être même, alors là c'est la question qu'un peu que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas en même temps le processus un peu inverse, c'est-à-dire n'y a-t-il pas une sorte de corporalisation des entités spirituelles? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'arrive pas à un niveau où au fond la chair et l'esprit seraient pratiquement indiscernables, seraient pratiquement indissociables, et où nous serions à ce niveau de la vision ou à ce niveau de la révélation qu'au fond déjà un certain nombre de grands mystiques ou de grands religieux nous ont décrit?
Au biais d'une façon étonnante, des gens sans aucune culture vous diront que le corps atteint, el cuerpo logrado, le corps atteint, est un corps transformé en énergie pure, c'est une source d'irradiation. Le corps d'un grand médium est une source de vibrations bénéfiques pour ceux qui l'entourent, et en particulier lorsqu'effectivement il reçoit une entité. Maintenant, c'est sûrement l'influence très très profonde du kardécisme sur ces religions syncrétiques qui a développé cet aspect de rédemption. On peut dire que ça permet aussi à toutes ces religions syncrétiques de jouer un rôle à la fois thérapeutique et social très bénéfique dans des sociétés où finalement il y a des problèmes et même de très graves problèmes.
Oui, c'était un petit peu la question que je m'apprêtais à vous poser. Dans la mesure où on sent une sorte de fonction symbolique extrêmement forte, mais le mot symbole étant pris en même temps à son sens originel, c'est-à-dire ce qui fait pont, et quant à moi je le prendrais comme ce qui fait pont entre la matière et l'esprit, ou entre le corps et l'âme, est-ce que à travers cette fonction symbolique qui joue à plein, si l'on peut dire, est-ce que nous ne nous trouvons pas devant une nouvelle définition de l'homme dans sa société, ou tout au moins de la place qu'il s'assigne lui-même dans le groupe? Et est-ce que par là même, en même temps, il n'y a pas comme une sorte d'efficacité directe sur les troubles mentaux, dont nous avons vu en même temps quel était le statut ambigu, puisque ça pouvait être en même temps le début de l'initiation et le début du processus, nous parlions du chamanisme, mais est-ce que donc il n'y a pas une sorte de prise en compte à la fois collective, générale et symbolique de l'individu, qui en quelque sorte redresse son aspect spirituel et l'amène forcément sur le bon chemin?
Oui, la religion Umbanda a des effets thérapeutiques exceptionnels dans la mesure, et c'est dû probablement au fait qu'elle réunit tous les apports de la thérapie traditionnelle noire, c'est-à-dire le caractère collectif des thérapies et le caractère totalement spirituel. Mais je crois surtout, et là on revient sur quelque chose que l'on a déjà dit, je crois surtout que c'est une acceptation de la pluralité de l'être qui est essentiellement bénéfique. Ça n'est plus « je est un autre », mais « je suis beaucoup », »,« je suis multiple ». Et puis, non seulement cette acceptation, mais cette volonté d'assumer la pluralité. Alors, on voit énormément d'Umbandistes se consacrer à la thérapie dans le cadre des hôpitaux, et en particulier quand il s'agit de chroniques un petit peu délaissées par les corps médicaux. Il y a un processus de récupération charismatique qui est assez beau, véritablement. Bien, je crois que ce à quoi on assiste fréquemment chez les troublés mentaux, si vous voulez, c'est qu'il y a une espèce de lutte entre deux ou plusieurs aspects de la personnalité qui finissent par briser totalement la personnalité. Eh bien, ils offrent à ces personnes la possibilité de donner champ libre tour à tour à chacun de ces aspects, finalement complémentaires, et ils atteignent une espèce de satisfaction parce que l'individu qui a comme cela la possibilité de décharger son trop-plein énergétique dans des séances de transe, qui sont quand même des séances qui vous laissent totalement rénover. Il est incroyable de voir qu'un grand nombre de ces pailles et mailles, qui sont des personnes âgées, parce que les rituels d'initiation complets sont très longs et très difficiles, on voit donc des gens très âgés qui ont 68, 70 et beaucoup plus, et en particulier au Brésil, mais enfin beaucoup plus, qui pendant des heures peuvent connaître des transes successives et qui, au matin, parce qu'en fait les rituels sont parfois très longs, il y a des rituels qui commencent à 8 heures. Jusqu'à minuit, on rend hommage aux entités supérieures, blanches. Après minuit, c'est véritablement les efforts que l'on déploie au service des esprits obscurs, des échous, des démons, si vous voulez. Au-delà de minuit, et finalement, ça dure souvent jusqu'à 6 heures du matin. Ce sont des gens, on l'a dit, qui sont souvent très pauvres, qui travaillent pendant la journée. Donc, on peut supposer qu'à 8 heures, ils vont être à leur travail. Ce sont souvent des travaux très lourds, très pénibles. Eh bien, au matin, après avoir passé des nuits à danser, à invoquer, à recevoir leur Dieu, ils semblent neufs. Et il faut bien imaginer que dans tous les temples, les grandes sessions ont lieu au moins 2 fois par semaine. Et il y a souvent 3 ou 4 sessions d'entraînement, comme on dit, au cours desquelles on forme les nouveaux médiums. On les prépare à être à leur tour filles de saints ou fils de saints. Or, je parle souvent au féminin parce qu'il est certain qu'il y a une majorité de femmes. Ça, c'est dû à l'influence de la religion Yoruba, où essentiellement on donnait la priorité aux femmes. Ce qui n'était pas le cas parmi les Bantous, c'était le contraire.
Dans un de ses livres, Arthur Ramos conte l'histoire d'une laveuse qui avait été sauvagement possédée par Yemanra pendant qu'elle lavait tranquillement le linge et qui sut de cette manière qu'elle était son dieu. Voici une autre histoire non moins pittoresque. J'ai connu son héroïne, qui d'ailleurs est blanche. Cette jeune fille était de Oxum. Or, on sait que ce dieu est hypocrite, menteur et rusé. Voici comment il est arrivé à se faire servir par notre héroïne. À force de se jouer avec sa santé, de lui causer des perturbations de toutes sortes, il la persuada d'aller au terrerio d'une amie, Johanna de Ogum, pour lui demander la tranquillité du corps et d'esprit. L'astucieux Oxum n'attendait que cela. Pendant que la dévote accomplissait ses pieuses obligations, il l'attira à lui, la fit rouler par terre, l'agita de convulsions terribles et lui déclara qu'elle ne devait pas sortir du camp d'emblée sous peine de mort. Et la femme resta prisonnière. Or, il faut préciser qu'elle était mariée à un lieutenant de l'armée qui venait d'avoir un fils qu'elle allaitait encore. Ce même jour, elle devait recevoir ses amis, leur donner réception, et sa présence à la maison était doublement indispensable. Oxum ne se préoccupe pas de contingences aussi humaines. Son cheval fut obligé de rester durant des semaines dans la petite chambre pour y apprendre les secrets de l'adoration, tandis qu'une fille de saint, déjà faite, se chargeait de recevoir les visites, prendre en charge la maison, subvenir aux besoins du mari et s'occuper de l'enfant.
Interrogeaient sur la fatigue possible que cela pouvait entraîner et ils étaient nombreux à répondre, mais pas du tout, je suis cardiaque depuis l'âge de 40 ans et on les voit véritablement se restaurer. Alors on pense, comme vous le disiez tout à l'heure, on pense au chaman qui a retrouvé sa santé aussi bien physique que mentale à partir du moment où il a commencé à chamaniser, c'est-à-dire à connaître la transe qu'il faut d'ailleurs distinguer très très soigneusement de la possession, parce que c'est quelque chose qui est provoqué, qui est totalement contrôlé et sociabilisé, qui possède des règles qu'on n'a pas le droit de dépasser, parce qu'il y a toujours la maille qui contrôle, qui peut couper, interrompre la transe. Il y a un refus donc du spectaculaire dans les temples, un refus de la recherche d'émotions fortes. La meilleure façon de se faire renvoyer définitivement d'un temple et rejeté du processus d'initiation, c'est de véritablement chercher l'évasion, chercher des impressions différentes, faire une expérience. On vous détecte très vite, on vous prend plus au sérieux. Alors de deux choses l'une, ou on s'occupe plus du tout de vous, et c'est là que se vérifie ce que vous disiez, on ne progresse pas tout seul. On a terriblement besoin de s'appuyer non seulement sur les initiateurs, sur les guides, mais aussi sur les frères de religion. Et c'est très important d'insister sur le fait que justement, dans une session spirit ou dans une session umbandiste, qui reste quand même du spiritisme noir, mais du spiritisme, c'est tout le monde qui est capital. Il suffit quelquefois de l'incapacité de se concentrer de quelqu'un pour rompre la chaîne, pour rompre l'intensité de concentration, et on remarquera que ce jour-là, véritablement, il y a eu des problèmes, des lenteurs inhabituelles, que les entités ne sont pas bien arrivées, qu'elles sont mal descendues, ou qu'elles ont, chose plus grave encore, malmené cruellement los caballos, les chevaux, les cavaliers, les montures. Et souvent, la maille est obligée d'intervenir quand la transe devient trop violente. Par une prière, elle supplie l'entité de laisser la matière comme elle l'a trouvée, de ne pas la détruire, de ne pas la rendre malade, de ne pas la déséquilibrer. Alors maintenant, s'il y a des effets bénéfiques de l'Umbanda sur l'équilibre mental, on peut dire qu'à l'inverse aussi, il y a des accidents qui sont rares, mais qui se présentent parfois, en particulier dans le cas d'interruption brutale de la participation aux sessions. Quelqu'un qui prend cette habitude, qui rentre dans cette discipline, si vous voulez, de connaître la transe 3 ou 4 fois par semaine, ne peut pas brutalement refuser son canal, sa matière, sa monture aux esprits. Il est bien évident que ces esprits vont chercher, sans qu'il les appelle, à reprendre possession de lui d'une façon impromptue, imprévue. Alors ça donne lieu à des crises dans la rue, chez des gens qui vont être internés par une population qui ignore ou qui justement se refuse à savoir ce qui a pu se passer. On demande toujours, par conséquent, au médium de se retirer très progressivement dans le cas extrêmement pénible, extrêmement triste, où il aspirerait à quitter le cercle religieux, pour ne pas justement connaître ses attaques mentales. De la même façon qu'on demande au médium de ne pas chercher la transe à titre privé, de ne pas attirer d'une façon égoïste les bienfaits des esprits sur lui, pour lui et seulement par lui. Donc on demande toujours au médium de ne connaître la transe que dans son caractère collectif et socialement contrôlé dans le terreiro, qui est un lieu sacré, un lieu protégé du monde profane et de ses atteintes. Alors disons, si vous voulez, que la transe que vous pourriez rechercher expérimentalement et à des fins égoïstes en dehors du terreiro, c'est presque toujours un danger contre lequel on met en garde tous les nouveaux initiés. Mais avec une sérieuse violence d'ailleurs, c'est quelque chose de complètement interdit. Il faut maintenant être logique, j'ai eu l'occasion de le constater, puisque pendant plus de 9 mois, j'ai quand même travaillé dans les hôpitaux psychiatriques, je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient fréquemment raison. Il y a un très grand nombre de malades qui ont été ramassés sur la voie publique ou carrément remis aux autorités par des membres de leur famille qui se sont trouvés dans ce cas-là, dans un cas d'infraction religieuse, si je puis dire.
Prière de miséricorde pour les criminels. Seigneur, ne méprise pas ces pauvres malheureux, coupables de crimes et torturés de remords. Comme d'un rayon de votre toute-puissance, éclairez leur intelligence, ouvrez leur cœur. Inspirez-leur un sincère repentir plutôt qu'une trop sombre douleur. Mais surtout, Seigneur, protégez-nous de la haine, du mépris, et de l'incompréhension qui ferait encore plus lourd leur fardeau. Permettez-nous de les aider en rendant notre cœur plus pur, plus miséricordieux et plus aimant. Donnez à notre concentration d'esprit et à notre ferveur le pouvoir de les approcher, de les toucher. Faites que votre peuple d'humains soit un et uni. Chassez de notre cœur tout désir de vengeance et toute inimitié. Aidez-nous à refuser tout privilège que nous ne saurions partager avec nos frères, même avec les plus misérables. Sarava Bayoshala. Sarava todos os orixás.
Qui est-ce qui encombre les rues? Gardez les carrefours. Appelez Pompagira qui travaille dans les chemins. Courez. Tournez Payogun. Les fils veulent se fumiger. L'Umbanda a des fondements. Il faut donc préparer. Sentez l'encens et le benjoin, le romarin et la lavande. Ah, fumiger, fils de foi, avec les herbes de Yurema. Matinée des autres. L'Umbanda, une religion des esprits dans une société moderne. Par Madame Batudossi et Michel Cazenave. Documents ethnomusicographiques originaux recueillis en Uruguay. Avec les voix de Claude Berman et Michel Derville. Prise de son, Michel Miroux. Assistante, Nicole Valeron. Réalisation, Christiane Mallarmé.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 avril 1980.